vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Et bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes. Du lundi au vendredi, de 12h30 à 13h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, dans cette émission du mercredi 28 mai 2025, nous vous diffusons le montage d'une émission réalisée par le média Au Poste, dans lequel étaient invités les porte-parole d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde afin de revenir sur les procédures de dissolution à l'encontre de leurs organisations, mais aussi sur les luttes et les combats à mener face à l'arbitraire de l'État dont ces décisions ne sont que des symptômes. On vous laisse donc écouter ça.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau live de Horizon 21, une émission qui vous est proposée par les deux médias indépendants en ligne, Orient 21 et Afrique 21, accueillis par nos chers camarades de Au Poste qu'on remercie. Donc le collectif contre l'État, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Pour en parler, on a deux invités. Je commence avec le premier, Raphaël Arnaud, bonjour. Vous êtes député LFI depuis juillet 2024, vous avez été élu en juillet 2024. Mais vous êtes aussi membre fondateur de la Jeune Garde antifasciste, qui est un collectif fondé à Lyon en 2018, dont vous avez été le porte-parole. Et donc notre deuxième invité, ce sera Omar Soumi, qui est membre fondateur du collectif Urgence Palestine et qui en est aussi le porte-parole. Donc Urgence Palestine, c'est ce collectif qui a été fondé au lendemain du 7 octobre pour mobiliser en solidarité avec la population palestinienne et contre les génocides en cours à Gaza. Première question, où en est aujourd'hui la procédure de dissolution qui a été lancée contre la Jeune Garde antifasciste ?
Ben, écoutez, ça va, faut rester lucide dans ces cas-là, faut prendre un peu de hauteur sur la situation. On a toujours considéré la Jeune Garde comme étant un outil pour lutter contre l'extrême droite, c'est pas une fin en soi, comme toute organisation politique. Après, évidemment, ça dénote de quelque chose quand même politiquement. Et t'as rappelé le contexte, hein, dans un contexte islamophobe qui pète les scores. On n'a jamais atteint un tel niveau, encore une fois, de racisme depuis, je pense, l'après-guerre mondiale. On a effectivement ce génocide à Gaza qui vient de toute façon faire miroir avec l'islamophobie qui est actuellement relayée à tous les étages dans notre pays. Et c'est à ce moment-là précis, C'est dans ce moment précis que le gouvernement décide donc de s'en prendre à nos deux organisations, à la fois à la Jeune Garde, organisation antifasciste, qui aussi, de fait, lutte sur la question du racisme, même si notre combat principal, c'est de lutter contre l'extrême droite sous toutes ses formes. Évidemment que la question du racisme aussi est centrale. Sur la situation, de façon générale, c'est très inquiétant. Et à la fois, on est serein dans notre capacité à poursuivre le combat. D'une part, on va se battre pour protéger ces organisations, encore une fois, pas parce que c'est une fin en soi, mais parce que c'est un outil formidable et on l'a vu depuis des années. Nous, on a un certain bilan, d'ailleurs, c'est ce pourquoi on est attaqué.
Mais du coup, pour revenir, où en est aujourd'hui la procédure de dissolution ?
Nous, il y a quelques heures de décalage. Hein. Je crois que vous avez reçu la notification le 28, c'est annoncé en grande pompe. Et voilà, on a le souvenir hein, de ministre de l'Intérieur qui, sur un tweet, en fait, annonce à des organisations militantes qu'elles vont être dissoutes. Moi, ce qui s'est passé, lundi soir, j'étais à un événement ici à Paris. On était à la table de Gaza. C'était un événement pour l'accueil des rescapés du génocide. Et j'étais voilà, avec ces personnes qui sont arrivées récemment de Gaza, toute une série d'invités, des artistes. Et je reçois un appel de mon épouse à 22h qui me dit que les policiers viennent de repartir de la maison. Les enfants étaient paniqués, en pleurs. Ils sont rentrés voilà, dans notre intimité, en fait, à 10, lampes torches, certains en civil, certains en tenue. Enfin, ils ont cru, en fait, à une agression, parce que nos domiciles, il faut le dire aussi, nos visages, nos familles, nos lieux de travail sont ciblés régulièrement. Mmh. Non seulement fichés par le gouvernement français, mais en réalité, nous, on a déjà vu des hordes de militants pro-israéliens qui nous menacent de mort. J'ai reçu des appels de Tel Aviv ou de Netanya, de gens qui... Donc, mon épouse, elle avait déjà en tête que, voilà, notre domicile, il n'était pas à l'abri d'une agression. Et donc, en réalité, quand elle voit des lampes torches et des gens inconnus la nuit, à l'heure où on couche les enfants débarquer, elle croit honnêtement à une agression des milices de l'extrême droite, sionistes. Et bon, c'est pas ça, c'est la police. Et ils parlent d'un document qu'ils doivent absolument me remettre. Je vais vous passer les détails, mais en fait, il y a un acharnement... on comprendra peut-être plus tard, à nous remettre la notification dans des délais donnés. Je pense que c'était lié au besoin du ministre de l'Intérieur d'annoncer avec force et virulence que c'est quelqu'un qui est costaud dans son rôle régalien. Et on sait qu'on a affaire aussi à un candidat potentiel du camp d'une droite extrême et d'une extrême droite qui, après l'inéligibilité de Marine Le Pen, mais surtout là, après le meurtre terrible d'Aboubacar Cissé, cet attentat islamophobe où il se retrouve pris à défaut, en fait. Sa réaction, ou plutôt son absence de réaction, elle est critiquée par les médias, mais même dans son gouvernement.
Enfin, ce week-end, il y a le congrès des Républicains, donc il faut peut-être aussi mettre ça dans le contexte, justement, de l'élection interne et de qui va prendre la présidence aussi du parti. Donc peut-être aussi que c'est purement de la politique interne, en fait.
C'est terrible. Enfin, c'est-à-dire qu'on parle déjà, on parle d'un attentat islamophobe. 57 coups de couteau dans une mosquée.
Aboubacar Cissé, le 25 avril.
Situation internationale où nous, on reçoit cette notification le jour où le Programme alimentaire mondial annonce qu'il n'y a plus un sac de farine dans la bande de Gaza.
Ça fait plus de deux mois que... Donc on le rappelle, oui, ça fait plus de deux mois que l'aide humanitaire ne rentre plus à Gaza. Ils n'ont plus rien, absolument plus rien. Il y a la famine déjà dans
Gaza. Et le jour où Netanyahou annonce qu'il l'embrigade des dizaines de milliers de réservistes supplémentaires pour lancer un assaut final, c'est-à-dire en gros pour finir sa campagne génocidaire et son nettoyage ethnique. Donc on ne s'attendait pas honnêtement à recevoir une notification de dissolution d'une organisation antifasciste comme la Jeune Garde et d'un mouvement palestinien comme Urgence Palestine. Donc voilà, on est pris un peu de court, mais en fait, c'est le genre de claque qui réveille le dragon de la solidarité, qui réveille l'envie de se battre contre l'injustice et l'arbitraire. Et de toute évidence, pour nous, il est clair qu'ils utilisent des armes policières et administratives, mais le droit, en réalité, la justice, elle est de notre côté. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a eu vraiment cet élan extraordinaire de solidarité et de soutien.
Tu dis que la justice est de votre côté. Est-ce que légalement, vous pensez que vous avez toutes vos chances? Et puis, peut-être inscrire aussi les procédures par lesquelles vous êtes visé dans un contexte plus large aussi.
Ouais, en vrai, je pense qu'on est confiant parce que à la fois Urgence Palestine, à la fois la Jeune Garde, on est sérieux dans ce qu'on fait. Manque de peau, ils se sont aussi attaqués à des organisations qui, depuis nous un peu plus longtemps, mais Urgence Palestine s'est inscrit là-dedans, ont réussi à faire du lien autour d'eux, avec aussi tout un tas d'organisations avec lesquelles des fois on n'est pas tout à fait d'accord sur toute la ligne. Mmh. Et pour autant, on a réussi à créer, on parle souvent d'unitaire, etc., mais à créer en tout cas une dynamique collective autour de nous. Et en s'attaquant à Urgence Palestine, à la Jeune Garde, on n'est pas seul, quoi. Nous réduire à un état groupusculaire, je pense que c'est la plus grosse erreur de Bruno Retailleau à ce moment-là. On n'est pas un état groupusculaire, preuve en est avec Urgence Palestine, qui peut-être chaque semaine a réussi à produire des événements immense avec des milliers et des milliers de personnes qui se sont rassemblées, évidemment au vu de l'urgence en Palestine, d'où le nom d'ailleurs. Mais voilà, donc on n'est pas du tout dans cette situation, on est isolé politiquement, et d'ailleurs, tu l'as rappelé, le nombre de soutiens qu'on a reçus est juste phénoménal. Et derrière, pour cette bataille juridique, effectivement, il y a deux organisations qui nous ont prouvé qu'il était possible de faire reculer le gouvernement dans sa dérive autoritaire, c'est les Soulèvements de la Terre, la Défense Collective qui était un plus petite organisation, mais les Soulèvements de la Terre, je crois que c'est celle qui a fait le plus de bruit, et bien évidemment qu'on va s'en inspirer. On est en contact aussi avec les Soulèvements de la Terre, d'ailleurs au meeting ils avaient été invités, ils avaient pris la parole. Donc on souhaite s'inscrire dans tout ça, et devant le Conseil d'État, je pense que quand même ça va être difficile pour le gouvernement et ses services de renseignement de nous dissoudre. Voilà.
Deux éléments supplémentaires, c'est effectivement déjà que les dossiers sont vides. Enfin, alors je dis les dossiers, je peux parler de celui d'Urgence Palestine, la notification qu'on reçoit, c'est une mise bout à bout de clichés sur finalement l'ensemble du mouvement de soutien aux Palestiniens. En gros, on est accusé d'être violent, antisémite et terroriste. C'est finalement ce dont sont affabulés les étudiants et étudiantes qui se mobilisent sur leur campus, les syndicalistes qui osent dire le mot de droit international face à l'arbitraire israélien. Donc, fondamentalement, dans cette procédure, nous, on est aussi extrêmement confiants et tranquilles sur le fait qu'il n'y a rien. En même temps, du coup, ça révèle le fait que, fondamentalement, la seule chose qui nous est reprochée, c'est d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire d'être des Palestiniens palestiniennes, avec les alliés de la lutte anticoloniale qui sont rassemblés autour de nous, dans une posture politique qui est exigeante et qui est effectivement sur une ligne qui est différente et distincte de celle de la plupart de la gauche traditionnelle en France. On est des Palestiniens palestiniennes et effectivement on porte donc une voix singulière dans cet espace. Ça c'est pour ce qu'il y a dans le dossier. Pour ce qui est de la procédure et des précédents qui nous inspirent, c'est vrai que les Soulèvements de la Terre, c'est effectivement un exemple de mobilisation très large, très forte, qui permet de mettre en échec le ministère de l'Intérieur. Il y en a une dans le cas de la Palestine qui est importante aussi à nommer, c'est le Comité Action Palestine de Bordeaux. Dans l'histoire des mouvements de l'immigration postcoloniale, et on a parlé du CCIF, il y a beaucoup d'organisations musulmanes notamment qui n'ont pas su ou pas pu échapper à la dissolution, souvent parce que quand on dit que des musulmans sont des terroristes, beaucoup de gens croient en fait le gouvernement, c'est-à-dire que cette islamophobie dont on parle, c'est pas que les génocidaires à Gaza ou le méchant Retailleau. Il y a des choses qui, hélas, traversent le champ politique français, y compris dans une certaine gauche. Donc, je le dis en passant, on a à décoloniser nos imaginaires à l'endroit de ce que sont les Arabes, les musulmans et plus généralement les militants des luttes sociales et antiracistes. Cela étant dit, Comité Action Palestine de Bordeaux, ils obtiennent, après un référé liberté, la suspension du décret de dissolution. Et aujourd'hui, longue vie à eux, à elles, ils continuent d'agir malgré la volonté du ministère de les dissoudre il y a deux ans. Je crois que c'était au même moment que le comité Palestine vaincra de Toulouse, qui lui n'a pas eu la même chance, j'allais dire, en tout cas qui n'a pas eu le même destin. Mais c'est aussi parce que nous, on a fait le choix de travailler avec des avocats, avocates, sont porteurs un petit peu de toutes ces expériences, celles des soulèvements, celles du comité Palestine vaincra et d'Action Palestine à Bordeaux. Voilà, on espère avec cette composition, en plus du rapport de force politique, avoir justice. Et ça, je le dis vraiment, c'est parce que c'est important. Souvent, on nous dit, est-ce que vous avez des bons avocats? C'est indispensable d'avoir des bons avocats, bien sûr. Mais fondamentalement, c'est le rapport de force politique, c'est la mobilisation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et des organisations petites et grandes qui va faire la différence. Et c'est pour ça que la mobilisation, elle doit continuer, elle doit se poursuivre. Il y a des tribunes, il y a des pétitions, il y a des événements de soutien. C'est pas plié d'avance. Et une de nos batailles, je pense, c'est la bataille contre la résignation. Une bataille contre l'idée que ce pouvoir peut tout faire. Et là, c'est le moment de la responsabilité citoyenne. Et je continue à être grave dans cet appel à la responsabilité et à l'action. c'est pas plié d'avance, au contraire. La Palestine nous le montre, beaucoup de luttes nous l'ont montré à travers l'histoire, c'est quand on résiste et qu'on fait front qu'on gagne.
Qu'est-ce qui fait la singularité de ce collectif ?
Ça, c'est un point important, c'est que Urgence Palestine, c'est d'abord une coalition fondée par des Palestiniens palestiniennes en exil. Donc nous, Palestiniens, héritiers de la longue histoire de résistance de notre peuple, héritiers de cette lutte de libération, exilés en France avec des parcours très différents. Il y a des personnes qui sont d'anciens prisonniers politiques, des détenus déportés, je pense bien sûr à Salah Hamouri, à Rami Shaheth, mais aussi des personnes comme moi, nées en France.
Alors
moi,
je suis un Palestinien
de Paname, c'est comme ça que je me définis.
Je fais les notes de bas de page ici. Donc Salah Hamouri, pour rappeler, avocat franco-palestinien, qui a été, qui a passé des années en prison, en détention administrative, c'est-à-dire sans motif, etc., en Israël, et qui a été finalement renvoyé de chez lui. Aujourd'hui, il n'a plus le droit de mettre les pieds à Jérusalem, en Palestine. Et Rami Shaheth, qui est en fait le fondateur de la campagne BDS, boycott des investissements sanctions au Caire, et qui, lui, a été emprisonné par le régime égyptien d'Abdel Fattah Sissi, et qui a fait exactement la même chose, qui l'a donc renvoyé en France. Donc c'est bien que la seule démocratie au Proche-Orient a finalement les mêmes méthodes que les plus grands régimes dictatoriaux du Proche-Orient aussi.
Note de bas de page utile, on veut la surligner. Et donc voilà, des parcours de vie très différents de Palestiniens et Palestiniennes qui, en fait, de Gaza, de Cisjordanie ou d'ailleurs, après le 7 octobre, se sentent investis d'une responsabilité historique. Et on pourrait citer Fanon ou d'autres. Mais effectivement, notre mission à chaque moment de notre lutte, à chaque moment de notre vie, c'est de découvrir quelle est notre responsabilité historique. Et de toute évidence, en octobre 2023, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les Palestiniens, dans leur résistance, soient reconnus comme des acteurs légitimes et de plein droit. Non seulement, bien sûr, en Palestine et à Gaza, mais aussi ici en France. Et ça, c'est une réalité qui n'est pas que franco-française. En fait, partout à travers le monde, les diasporas palestiniennes, en réalité, ont pris le lead de la mobilisation. Parce que, de façon organique, en réalité, nous sommes liés à notre peuple. Nos familles sont là-bas, nous connaissons cette histoire, nous en sommes porteurs, nous en sommes les héritiers. Nous parlons cette langue, qui est la langue de la résistance à l'impérialisme dans cette région qui est la nôtre. Et par conséquent, on peut échapper à la propagande médiatique, on peut avoir d'autres regards que ceux qui sont proposés dans les médias dominants et dans l'espace occidental. Et donc, on a ce rôle de courroie de transmission d'un souffle de résistance qui vient de Gaza. On a ce rôle, en réalité, de traducteur de la langue de la résistance et de cette méthode héritée du long bagage des luttes contre le colonialisme. Et là, je ne parle pas seulement de la Palestine, je parle du Vietnam, je parle de l'Algérie, je parle de cet héritage qui est celui des diasporas du Sud global en général. Et donc, en France, la singularité d'Urgence Palestine, c'est celle-là, c'est celle d'être un mouvement qui s'est construit autour des premières concernées, en réalité. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Il y a un autre point important aussi concernant Urgence Palestine, c'est que on parle souvent des manifestations, c'est la partie la plus visible, et effectivement, c'est la partie à laquelle on a eu accès, en fait. La réalité, c'est qu'on n'avait rien, et du coup, on n'avait que la rue. Et même la rue nous a été interdite au début de la mobilisation.
Oui, c'est les manifestations n'ont été autorisées qu'à partir de fin novembre, en fait.
Et donc, cette singularité d'Urgence Palestine, elle commence dès le début, c'est-à-dire qu'il y a un discours sans concession, je pense, sur l'exigence d'une lutte ferme contre le colonialisme. Ce n'est pas que la dernière exaction d'un gouvernement qu'on combat, mais c'est un système d'oppression qui est ce colonialisme sioniste que nous combattons en réalité. Deuxièmement, c'est dans l'action, effectivement, vu la responsabilité que nous avons, vu l'immensité du sacrifice de notre peuple, on ne peut pas accepter que les manifestations soient interdites par un gouvernement aussi peu légitime en réalité. Et donc, là où certaines organisations attendaient que ça se tasse, pensaient qu'en étant gentil en fait avec ce gouvernement, on allait pouvoir peut-être obtenir nos droits, on a dit non, le droit il se conquiert. Le droit c'est une lutte sociale, c'est pas en étant gentil seulement. Et quand je dis ça, c'est pas qu'on a été méchant, mais c'est juste qu'on a désobéi. Quand ils nous interdisent de manifester à la place du Châtelet ou à la place de la République, ben, en réalité, on a assumé d'y aller quand même. Et c'est comme ça qu'on a cassé le siège qui était imposé à la lutte ici à Paris. Dans la notification, on nous reproche d'avoir dit par tous les moyens nécessaires. C'est une référence à Malcolm X. Et comme si quand on dit par tous les moyens nécessaires, ça veut dire nécessairement qu'on va utiliser la violence ou la force. On est un mouvement qui est non violent Ici en France, on a utilisé les moyens pacifiques d'une mobilisation citoyenne. On est un mouvement qui a utilisé les recours juridiques à chaque fois que c'était nécessaire. Je dis comme ça, mais par rapport à certains mouvements sociaux, quand on pense à la longue histoire syndicale, aux luttes des mineurs, aux affrontements qu'il y a pu y avoir entre des paysans et les CRS, la réalité, c'est qu'on est des gentils citoyens qui veulent juste faire entendre une voix de solidarité internationale, une voix d'exigence de justice.
Sur la question de la diaspora, on rappelle aussi que les Palestiniens sont les seuls qui gardent, en fait, dont le statut de réfugié se transmet de père en fils, pour rappeler justement le droit au retour et pour rappeler l'importance de la diaspora. Tout à l'heure, je disais qu'il était important de rappeler dans quel contexte ces dissolutions se font. Il y a aussi une volonté, là en tout cas ça a été annoncé, la volonté de dissoudre aussi Lyon Populaire, qui est une organisation d'extrême droite. C'est du en même temps. Est-ce que, alors, on imagine que c'est aussi, enfin, c'est un écran de fumée et voilà, enfin, on pourra commenter ça. Mais est-ce que aussi ça, et là, je pose aussi un peu la question aux députés, est-ce que ça ne pose pas question, ça n'interroge pas le procédé de dissolution en soi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une arme qui peut être utilisée à la fois contre l'extrême droite, mais aussi contre les militants de cause légitime, est-ce que ça ne pose pas question sur cet outil-là, en fait, comme arme de lutte ?
Je pense que, en fait, c'est comme tout outil, toute arme, c'est tout dépend par quel biais politique on l'utilise. Évidemment que pour la dissolution d'une organisation néofasciste comme Lyon Populaire, je m'en fous quoi. On s'en fiche. Par ailleurs, on n'a pas fait campagne pour une dissolution de ce type d'organisation parce qu'en réalité, c'était une organisation qui était en fin de vie. De toute façon, on les avait bien contrés aussi dans la rue. Hein. C'est aussi à ça que ça sert les antifascistes. Et donc, de ce point de vue-là, pour qu'ils soient dissous ou non, ça a peu de répercussions en réalité sur la situation.
Donc, c'est pas une organisation importante qui mobilise.
Non, c'est pas comme Génération Identitaire.
Oui, voilà.
Génération Identitaire, c'était encore une autre sauce. Et par contre, au moment de Génération Identitaire, nous, on a mené campagne pour la dissolution. Et je me souviens qu'il y avait ces débats à la gauche qui sont légitimes en disant attention, parce que en demandant la dissolution de Génération Identitaire, un jour, ça pourra vous retomber dessus. Mais non, en fait, on n'avait pas cette analyse. On avait l'analyse de toute façon, le tournant autoritaire et raciste est déjà là. Et quoi qu'il arrive, à un moment donné, la question de détruire nos organisations et de porter des dissolutions à l'encontre de nos organisations vont être effectives. C'était, encore une fois, dans la continuité, c'était sûr qu'on allait se faire attaquer là-dessus. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on mène bataille politique à la fois pour que ces organisations néofascistes ne puissent pas avoir pignon sur rue, ne puissent pas avoir des locaux, ne puissent pas exister politiquement. Et je pense notamment à la manifestation de ce samedi. Hein. Enfin, je veux dire, ça vient rajouter quand même un truc sur nous. On est dissous quand même pour des trucs complètement dingos. On a accusé les mouvements palestiniens d'antisémitisme dans tous les sens. On parle quand même de gens qui ont des tambours, des jeunesses hitlériennes reproduits à l'identique. Évidemment, de tatouages néo-nazis, etc. Alors, quand on est antifasciste, on a souvent la sensation de malheureusement baigner là-dedans, de à chaque fois faire des révélations sur ce qui se passe, etc. Mais il y a plein de gens qui découvrent ça. On a l'impression chaque nouvelle année. C'est d'autant plus absurde de la part du gouvernement que nous dissoudre dans ce contexte, encore une fois. Et bref, et donc effectivement, cette question de la dissolution se pose. Maintenant, moi je pense qu'on doit se battre pour éviter des dissolutions de notre camp social, de solidarité internationale, contre le colonialisme, antiraciste, féministe, peu importe. De toutes ces luttes-là, on doit se battre contre ces dissolutions et à la fois empêcher les organisations néofascistes de se développer dans notre pays, avec utilisation ou non de cette question de la dissolution. Ça se pose, je pense, pour chaque organisation. Ça se discute bien. Mais en tout cas, là, on doit se battre un maximum pour éviter de se faire dissoudre.
Alors, il y a les motifs de dissolution, mais aussi, c'est une accusation qui revient souvent. Nous, quand on a annoncé l'émission, on a eu ça aussi donc, sur les réseaux sociaux, etc. L'accusation d'antisémitisme, notamment pour l'urgence Palestine. Qu'en dites-vous ?
Je dis c'est triste et drôle à la fois, parce que déjà la réalité de notre mouvement, d'emblée, on est créé sur une charte qui dit contre le colonialisme et toutes les formes de racisme. Et quand on dit toutes les formes de racisme, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un paravent qu'on met. La réalité de notre mouvement, depuis le début en fait, c'est qu'il y a parmi nous des personnes qui sont porteuses de différentes identités, confessions, histoires, dont des personnes qui se revendiquent comme juives, souvent qui disent de façon explicite qu'elles sont anti-sionistes. Et nous, on ne demande pas aux personnes de montrer patte blanche, on a juste poser cette base commune et construire après une dynamique dans laquelle les gens se découvrent, apprennent à se faire confiance. En fait, on a construit un petit bout de Palestine libre, en fait. Donc notre antisionisme, c'est ça. C'est le refus d'un projet colonial et l'ouverture d'un espace de lutte dans lequel des personnes, quelles que soient leurs identités, leurs histoires, etc., peuvent construire ensemble un combat antiraciste authentique. Et donc, oui, il y a des musulmans avec des barbes, avec des hijabs, avec des pratiques religieuses diverses. Il y a des juifs antisionistes, il y a des personnes qui sont nées en Palestine, qui ont un passeport israélien, mais qui aujourd'hui ont décidé de quitter la colonie. Il y a des personnes chrétiennes, athées, anarchistes, marxistes, trotskistes, écologistes, féministes, etc. Et en fait, fondamentalement, la vraie question, je pense, c'est d'où vient l'accusation ? À partir de quoi, en fait, est-ce qu'on peut dire que Urgence Palestine serait antisémite ? À partir de quoi est-ce qu'on peut dire que Omar Al-Soumi ou Sarah ou Raphaël est antisémite ? La réalité, c'est que c'est de l'ordre de la diffamation. C'est des accusations extrêmement graves, en fait. Moi, concrètement, si on me traite de raciste, je le prends comme une injure. Quand on me dit que je suis antisémite, je le prends comme une injure extrêmement grave. Et donc, j'exige de la personne qui formule cette accusation qu'elle amène des éléments. Et c'est à l'accusateur de porter les éléments de preuve. Donc concrètement, qu'on nous amène des éléments concrets et matériels et on pourra les prendre pièce après pièce et démontrer que, bien sûr, de toute évidence, nous sommes une organisation qui défend notre peuple contre le colonialisme et qui se bat ici en réalité. Je pense que c'est de salubrité publique. En réalité, on est un grand mouvement d'éducation populaire. On est un grand mouvement qui permet aujourd'hui, partout dans les quartiers, les usines, les universités, etc., de mettre une différence qui est une exigence absolue entre ce qu'est le sionisme comme projet colonial et raciste, comme prolongement en fait d'une logique d'expansion de l'Europe à travers le monde, et ce qu'est un juif, une synagogue, ça n'a rien à voir. Et du coup, cette distinction extrêmement claire, c'est nous qui la faisons. La réalité, c'est que le gouvernement israélien et tous les défenseurs du projet génocidaire, aujourd'hui, au contraire, ils sont dans cette logique d'englober et d'embrigader, souvent malgré eux, tous les juifs du monde dans le soutien à l'État colonial, qui se prétend être un État juif, mais qui n'a de juif que le nom. Et les contestations juives à travers le monde, elles sont plus fortes que jamais. Oui. Aujourd'hui, la légitimité d'Israël à incarner et à représenter les juifs à travers le monde, elle est contestée de New York à Paris, en passant par Jérusalem même. Donc voilà, moi je suis assez serein avec ça, et je le dis vraiment avec gravité. Ceux qui disent ça, qui nous amènent des éléments de preuve, on a des casiers judiciaires vierges, on n'a jamais été condamnés, et c'est ça qui est assez fou aussi. Oui. Tu reçois une notification de dissolution d'une organisation pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun procès qui aurait tranché qu'on ait ceci ou cela. Donc, ils s'affranchissent totalement, en fait, du droit. Et pour moi, c'est ce qui se passe, en fait, en Palestine. C'est la diffusion d'une logique où seule la force prévaut et où on s'affranchit des juridictions internationales, des déclarations internationales, des droits de l'homme, du droit international, etc. On est vraiment dans un moment très grave pour l'humanité entière, où la force prévaut sur le droit. C'est ça la substance de notre bataille.
Oui. Ouais, je me permets sur l'antisémitisme parce que, évidemment, on n'est pas l'organisation qui a été la plus visée et que, de toute façon, à partir du moment où juste il y a un drapeau palestinien, où là, c'est, la question ne se pose même pas, c'est tout de suite une avalanche médiatique, etc. Mais on a quand même été aussi mis dans le paquet à partir du moment où, de toute façon, on a soutenu la Palestine, où on a été aussi de concert en soutien aux luttes contre l'islamophobie. Donc, de ce point de vue-là, on allait être visé, mais je rejoins Omar, c'est d'une violence, il ne faut pas sous-estimer. Je pense que ça a traversé tout le monde là sur le chat, les gens qui nous regardent, etc. Ça nous a tous traversés, ça nous a tous fait du mal. Parce qu'en vrai, ils s'attaquent à notre colonne vertébrale, qu'est l'antiracisme. Et l'antiracisme, on le répète jamais trop, tous les racismes sont liés entre eux, avec leur spécificité à la fois, mais tous les racismes sont liés entre eux dans une même domination raciale, d'explication du monde, etc., etc. Et c'est ça qu'on combat. Et donc ils s'attaquent à notre colonne vertébrale, c'est aussi le but. Ça permet aussi de relégitimer une extrême droite suprémaciste blanche qui est toujours antisémite, qui a fait toute sa... de son histoire dans l'antisémitisme et qui aujourd'hui tente de se refaire une beauté et une alliance très particulière, extraordinaire, j'ai envie de dire au mauvais sens du terme, entre les suprémacistes israéliens, les suprémacistes blancs, autour d'un projet justement raciste.
Thank you. رحنا المدينة الغربة الحزينة سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير الأرض الكريمة بيخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير الشط والرمال بداية حياتي أحلق يا وطن فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبة نادي
Trying to fly with no wings, but I promise you the cage birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, we should let it say Palestine.
Ah, fat, 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 الوقت عمري راح سنين ما ناسي هذه عوامر الخطر مجرور. Ah, fat, 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 الوقت عمري راح سنين ما ناسي هذه عوامر الخطر مجرور.
Et vous êtes de retour dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30. Et on continue de vous diffuser le montage réalisé de l'émission Au Poste, dans laquelle était invité Urgence Palestine et la Jeune Garde.
Aujourd'hui, plus que jamais, la question palestinienne et la question de l'extrême droite sont liées, alors qu'on aurait tendance, on aurait eu tendance jusque-là à penser la question de l'extrême droite vraiment de manière franco-française, nationale. Là, on voit bien à quel point c'est lié avec la question palestinienne. Et justement, donc fin mars dernier, à Jérusalem, donc le gouvernement israélien organise un congrès pour lutter contre l'antisémitisme en invitant toute l'extrême droite européenne. Donc il y a eu Vox, donc l'extrême droite espagnole, il y a eu l'extrême droite hongroise, les démocrates, donc c'est l'extrême droite suédoise. L'AFD n'était pas là parce que eux, ils étaient assez réticents à l'idée de vendre des armes à Israël, mais d'autres étaient là. Et il y avait Bardella, Jordan Bardella, qui était là, qui a fait un long discours avec Arno Klarsfeld, avec Meir Habib, et il y avait aussi Marion Maréchal Le Pen. Et on avait publié en fait fin mars sur Orient 21 justement un papier sur ce congrès. Donc justement c'est important, je pense, aussi de rappeler que le fait que vous soyez là aujourd'hui tous les deux, ce n'est que de facto les deux questions sont liées aujourd'hui.
Non, c'est très clair. Et sur cette question de l'antisémitisme, je veux dire, on arrive à un stade qui est terrible, justement, pour la longue lutte dont on se considère être, je pense, ensemble, les héritiers. Moi, palestinien, je m'inscris aussi dans la longue lutte des peuples du monde arabe, dans la lutte en particulier de ces Algériens, de ces Marocains, qui, pendant que la France collaborait, ont caché des enfants juifs. Ces colonies ont été des espaces d'accueil et de refuge à l'heure où la Grande-Bretagne et les États-Unis mettaient des quotas sur l'immigration des Juifs persécutés par les nazis et leurs collabos. Le Maghreb ouvrait les portes. La mosquée de Paris a caché des enfants juifs. Moi, je me considère être comme l'héritier, en fait, de cette histoire noble, où bien sûr qu'une personne persécutée en raison de sa race réelle ou supposée, de sa religion réelle ou supposée, mais en fait, on lui ouvre les bras, on lui ouvre les portes. C'est ça notre histoire de l'antiracisme. Et c'est ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de travestir d'une façon tellement vulgaire. Et en fait, on voit à ce moment aujourd'hui, Netanyahou et d'autres qui, pour des raisons de carrière politique et pour des projets coloniaux et suprémacistes, sont en train de détruire la substance même des mots, des idées pour lesquelles on s'est battu et pour lesquelles beaucoup ont sacrifié leur vie. Et donc pour moi, ils sont en train de défaire une lutte contre l'antisémitisme, qui est une lutte dans laquelle moi, personnellement, je m'inscris, encore une fois. Et ce que je veux dire, c'est quand même, il faut être vigilant.
Je rappelle justement qu'à Jérusalem, le mantra, c'était donc les ennemis aujourd'hui, ou en tout cas les véhiculeurs de l'antisémitisme aujourd'hui, ce sont les musulmans, les antisionistes et les immigrés. Raphaël Arnaud, sur justement l'extrême droite, l'antisémitisme, c'est quand même un tournant très important. On les a vus défiler en novembre 2023 dans la marche pour dénoncer l'antisémitisme. La semaine dernière, le RN a voté pour la loi à l'Assemblée nationale, pour la loi sur l'antisémitisme à l'université. Et je pense qu'à partir de la rentrée, on va voir les répercussions catastrophiques. En fait, pas juste en termes de mobilisation étudiante en fait, de cette loi, c'est quand même un tournant important.
C'est-à-dire qu'il y aura une commission entre le Sénat et l'Assemblée nationale parce que ça a été remodifié à l'Assemblée nationale. On a gagné quand même des trucs. On a empêché Caroline Yadan fasse passer les amendements les plus horribles sur cette loi, notamment de redéfinition de l'antisémitisme pour laisser justement le flou à l'interprétation de lier cette question à l'antisionisme, etc. Nouvelle forme d'antisémitisme. Bref, on sait bien de quoi ils essayent de retourner. Et donc, ça sera à nouveau rediscuté en CMP. Et puis après, ça sera à nouveau, ça va revenir à nouveau à l'Assemblée nationale. Donc, on n'en a pas encore fini avec cette loi, mais effectivement, bon, cette loi s'inscrivait un peu là-dedans. Malheureusement, il y en a encore une autre qui arrive, notamment portée par Aurore Berger, qui là, directement s'attaque à la question de l'antisionisme. D'autant plus, encore une fois, parce que Aurore Berger, je l'ai appris du coup durant cette loi, c'est David qui a cherché un peu sur David Guiraud sur Internet, qui a trouvé qu'Aurore Berger, en fait, avait milité à l'UNI. L'UNI, le syndicat d'extrême droite, dont on a révélé il y a à peine quelques semaines, quelques mois, qu'il faisait des jeux de cartes antisémites. Qu'il faisait des saluts nazis. Donc, c'est cette ministre-là. Et encore une fois, ça démontre toute l'absurdité de la période. Et oui, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Moi, je pense qu'il y a trois objectifs concrets pour l'extrême droite à s'inscrire là-dedans. C'est d'une part de faire du mal à notre camp, c'est-à-dire à l'antiracisme de façon générale, à la gauche sociale et politique, qui essaie de structurer la lutte contre les inégalités de façon générale, etc. Il y a cet objectif-là, de nous isoler en tentant de dire, regardez, c'est eux les racistes finalement, enfin, cette espèce d'aversion des valeurs. Il y a aussi une volonté de leur part de réexister politiquement, parce que quand même, vous êtes islamophobe, en gros, de cette société, on dit ok, allez-y, vous pouvez déballer toute votre haine sur les plateaux télé, même au contraire, on vous tend le micro deux fois plus, même ça vous fait monter aujourd'hui dans les médias, politiquement, etc. Mais par contre, l'antisémitisme, on sent qu'il y a encore, c'est dû à l'histoire aussi de ce pays, grâce aussi aux luttes antiracistes qui ont permis de dire maintenant, pour exister politiquement, vous ne pouvez plus être antisémite, affiché comme cela en tout cas. Donc ça a été grâce à nos luttes, j'ai envie de dire, notamment à l'après-guerre mondiale, etc., qu'on a pu les coincer. Et donc, c'était la dernière chose, entre guillemets, qui restait pour coincer l'extrême droite, en tout cas sur ce racisme-là, donc ça leur permet de sortir. Et la troisième chose, qui est centrale dans l'extrême droite et dans son existence à travers tout temps et toute histoire, de semer la confusion, de péter tous les repères qui nous consolident. On peut avoir encore une fois des divergences, des fois d'analyse politique, etc., mais on se rattache à des repères. Par exemple, l'idée de dire que la Shoah, évidemment, est un crime ignoble qui a existé, etc. Le fait qu'aujourd'hui, on ait des négationnistes, notamment à l'extrême droite, des Robert Forisson, etc., qui viennent contredire cette histoire, ça pète tous les repères, ça pète tous les canaux. Comme le fait, par exemple, de nier qu'il y a de l'islamophobie aujourd'hui dans notre pays, c'est aussi péter tous les repères. Et lorsqu'on n'a plus de repères, c'est plus difficile de s'accrocher à quelque chose pour combattre justement ces inégalités et ces racismes. Donc voilà, je pense, les trois objectifs de l'extrême droite. Et aujourd'hui, effectivement, il y a cette espèce de renouvellement de l'idée de dire qu'avant, le juif, c'était l'étranger en Occident. C'était ça qui était porté par les extrêmes droites, c'était l'étranger, c'était l'orientalisme, etc.
La figure du juif errant, c'était oriental. Vraiment
l'étranger. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de la part des suprémacistes blancs de dire non, finalement, vous êtes un peu comme nous, à condition que vous respectez les règles de l'Occident, etc. Il faut oublier qu'Israël, c'est quand même, ça sert aussi à ça. C'est le premier, je sais pas comment dire, moi, le premier mur de l'Occident, on va dire ça comme
c'est
ça.
L'avant-poste de l'Occident, c'est bon au Proche-Orient.
Exactement, ouais. L'avant-poste de l'Occident. Il y a cette volonté un peu d'intégration, encore une fois, pour répondre. C'est pas parce qu'ils aiment bien, parce que profondément, ils sont toujours antisémites et quand même, c'est un peu compliqué pour eux, cette torsion un peu idéologique. Mais c'est pour répondre à l'agenda, encore une fois, islamophobe, raciste. Et bien, ils ont besoin de trouver des nouvelles alliances, de nouveaux concepts de qui sont les bons, qui sont les méchants, j'ai envie de dire. Et il y a cette volonté de faire à nouveau alliance avec des suprémacistes israéliens, en l'occurrence profondément racistes également.
Et peut-être que je dois le dire aussi ici, mais je pense qu'il y a un enjeu très fort aussi pour nous, Palestiniens, Palestiniennes, Arabes, musulmans, et tous, en fait, à faire en sorte qu'on sorte de ce complexe qui voudrait que parler de l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on réserve à nos camarades juifs dans le mouvement. Je pense que c'est l'affaire de toutes et tous. Mmh. On a à se défaire de ce qui est une construction systémique qui a pollué les représentations et les imaginaires de beaucoup de gens. Nous, on fait un travail, du coup, dans nos quartiers pour défaire aussi les logiques complotistes et les thèses des orales, etc., qui définissent le sionisme comme étant...
C'est important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, un des moyens de lutter contre l'antisémitisme, c'est de ne pas être dans le déni et de ne pas être dans l'angélisme en disant non, ça n'existe pas. C'est ce qui existe, on lutte contre, on essaie de le déconstruire. Raphaël,
ouais.
Réaction, et ensuite je reprends avec les questions.
C'était juste sur ce que dit Omar, et je le rejoins tout à fait. C'est le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, finalement, on est un peu aux avant-postes de la lutte contre l'antisémitisme. Enfin, vraiment, évidemment que ça fait partie de nos colonnes vertébrales, évidemment, lorsqu'on voit des nazis qui font des trucs ostensiblement antisémites, etc. Mais au quotidien, en fait, on lutte contre cet antisémitisme, on l'a toujours rappelé, l'antisémitisme... il peut exister de partout. Aucune organisation ne peut se dire émancipée totalement de la lutte contre l'antisémitisme, comme de la lutte contre l'islamophobie, on le voit encore plus aujourd'hui, comme du sexisme, comme peu importe, toute forme d'oppression, etc. Et il ne faut pas aussi se leurrer, et ça a été une des fourberies aussi des antisémites, ça a été aussi de se fourvoyer dans la lutte contre le sionisme. Moi, je pense à des dieudonistes et des soraliens qui se disaient antisionistes pour mieux faire avancer leur agenda raciste, parce que Soral, il n'est pas que antisémite, il est aussi négrophobe, il est aussi islamophobe d'une certaine mesure, etc. Et ça a été aussi une manière d'avancer à travers l'antisionisme.
C'est un sacré abuseur et agresseur, sans doute. En tout cas, il y a des éléments convergents là-dessus. Et voilà, ce lien-là, excuse-moi, je me permets, mais du coup, effectivement, l'imaginaire raciste, l'imaginaire du colon, et en fait, cette logique aussi où on prend par la force ce qui n'est pas à nous, où on peut se permettre de violer l'intimité des gens parce qu'on les considère comme inférieurs, oui. Vraiment un truc majeur, je pense, dans l'alliance entre nos luttes anticoloniales, antifascistes.
Absolument.
Et féministes.
Et bon, moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des luttes palestiniennes et je pense que Omar en saura bien plus, mais moi, je me souviens quand même, dans les années 2010-2015, c'était un peu plus complexe, justement parce qu'on avait des antisémites qui essayaient de voler cette lutte-là. Et aujourd'hui, enfin, moi, dans les manifestations, on l'a vécu, on y a participé, etc. Justement, ce qui est très fort, c'est que les anticoloniaux et l'antiracisme a gagné profondément dans les mouvements palestiniens en France, et justement se sont débarrassés de toute cette sphère-là qui essayait justement de voler ces luttes-là au profit, encore une fois, d'un agenda raciste. Donc finalement, les luttes palestiniennes n'ont jamais été aussi saines qu'aujourd'hui pour moi en France, que ces 10 dernières années, etc. Donc, on est dans cette situation politique, encore une fois, où moi, avec honneur, on défend l'urgence palestine, qui fait un travail remarquable et qui, dans un sens, peut être aussi à la tête, encore une fois, avec des TCDEC, avec des UJFP, etc., à la tête de la lutte directe contre l'antisémitisme qui peut exister sous toutes ses formes, évidemment.
C'est ça, moi je tiens à dire vraiment juste une chose, combien les processus d'engagement militant sont libérateurs et formateurs. Et c'est ça aujourd'hui qu'on essaye d'interdire et de casser dans ces décisions du gouvernement français. Donc ce travail d'éducation populaire, ce travail de conscientisation, aujourd'hui en fait on nous demande de montrer patte blanche 1000 fois avant d'avoir le droit de s'engager comme citoyen. Nous, ce qu'on dit, c'est que avant de rentrer à l'école, on ne demande pas aux gamins s'ils ont le bac. Donc, concrètement, l'engagement tel qu'on le propose, nous, c'est on rentre sur des bases et des valeurs, mais après, on déconstruit. Je me dis, voilà, c'est dommage de passer trop de temps à se justifier. Le plus important, en fait, plus que de parler, c'est de venir et de s'engager. Et du coup, ces espaces, ils sont encore vivants aujourd'hui. On risque d'en être privé d'une certaine façon. Mais moi, je le dis, la campagne contre la dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde, c'est un espace d'engagement dans lequel cette discussion, en fait, elle passe de la théorie à la pratique.
Que reproche exactement Retailleau à Urgence Palestine?
Oui,
les motifs,
violence, incitation, provocation à la haine et provocation au terrorisme. Et là, on ne parle même pas d'apologie, hein, on parle vraiment du coup de l'idée, donc si on suit la catégorie juridique, qu'en gros, on enverrait des gens combattre dans des organisations terroristes. Ce qui, bien sûr, est totalement fallacieux, qui n'a rien à voir. Donc, en fait, la seule chose qui nous est reprochée fondamentalement, c'est ce qu'on dit et ce qu'on est. Là-dessus, je renvoie aussi à l'article du Monde, qui a repris de façon assez fine et détaillée les éléments qu'il y avait dans la notification et les arguments juridiques pour pas trop rentrer dans les détails qui pourraient perdre les personnes qui nous regardent. Ce que on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'ils reprochent dans la notification, ce qui est reproché dans les notes blanches qu'on découvrira quand on ira en justice, mais il y a ce qui est l'habillage politique. Et donc effectivement, le dossier juridique, c'est une chose, mais comme tu l'as rappelé, lui, il dit c'est un coup contre les islamistes. Donc en fait, on voit là en fait, le type d'habillage, ce qui légitime leurs actes juridiques, et c'est là où on voit la déconnexion en fait, entre l'agenda politique et la façon dont la justice, en réalité, est instrumentalisée. Et ça, je pense que, et j'espère en tout cas, que c'est quelque chose qui va un petit peu exciter la conscience professionnelle des juges, que ça va réveiller quelque chose aussi dans un pouvoir judiciaire qui, en principe, en tout cas, est séparé dans une démocratie du pouvoir politique et de l'exécutif. Donc voilà, c'est une réponse comme ça pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais continuer à comprendre les mécaniques et les enjeux qui sont à l'œuvre dans les décisions de ce gouvernement et de ce ministre de l'Intérieur en particulier.
Légalement, vous n'êtes pas des associations, vous êtes des organisations, des collectifs. Est-ce que justement, est-ce que ça facilite les choses concrètement? Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez être, est-ce que les membres vont être interpellés, interrogés? Comment ça se passe?
Par rapport à ça, en fait, ça revient quasiment au même parce que au niveau juridique, on appelle ça association de fait. D'accord. Lorsqu'on a un collectif et qu'on n'est pas déposé en préfecture, ce qui est notre cas, on est une association de fait parce qu'on est reconnu. C'est un fait pour le coup. On est un groupement, on a des activités, etc., etc. Et si c'est dans tous les cas, ça va être un handicap cette dissolution, comme pour toute organisation, même si on était déposé en préfecture, dans le sens où on n'aurait plus droit d'utiliser nos logos, on n'aurait plus droit aussi de se réunir. C'est, enfin, la dissolution, c'est quand même quelque chose de pas drôle. Hein. On n'aurait plus droit de se réunir.
C'est intéressant justement d'expliquer voilà, qu'est-ce que ça implique une dissolution justement.
Ouais, bah, par exemple, imaginons qu'avec Omar, on est dans la même organisation, on est tous les deux les porte-parole d'une même organisation, mais ce serait l'idée que si on remontait une organisation avec Omar, même si c'était sur un autre sujet, a priori, etc., le fait qu'on soit tous les deux dans cette même association et tous les deux porte-parole de cette nouvelle, par exemple, association de fait, eh ben, on pourrait être accusé de reconstitution de ligue dissoute. Alors, encore une fois, ça pourrait être encore une bataille juridique, hein, mais c'est vrai que c'est, de ce point de vue-là, c'est très handicapant, quoi. Et c'est, de toute façon, c'est la volonté aussi d'une dissolution, hein, c'est d'handicaper de futures possibilités d'à nouveau agir politiquement. Alors, vous vous doutez bien que peu importe le résultat de ces dissolutions, évidemment, on fera attention à pas tomber sous le coup de reconstitution de ligue dissoute parce que c'est pas le but, mais en tout cas moi mon engagement antifasciste ne s'arrêtera jamais. J'imagine que ton engagement sur la Palestine et les luttes antiracistes de façon générale, ne gouvernement de ce point de vue là se met un doigt de l'œil si on pense que, enfin s'il pensait qu'on arrêterait.
Ça c'est le principe et la constante, et du coup c'est une projection à long terme. Moi je le dis aussi dans nos pratiques militantes, on a souvent tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs et à dire qu'est-ce qui va se passer si. Pour l'instant, on n'est pas à ceci-là. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, le gouvernement français n'a même pas signé le décret actant la dissolution. Donc là, on est encore dans un moment dramatique d'urgence où toutes les formes de mobilisation qui vont interpeller ce gouvernement, qui vont travailler aussi sur les dissensions qu'il y a, parce qu'il y a différents agendas. Ils ont des désaccords entre eux très importants. Ils ont des agendas qui sont divergents. On peut faire là aussi un petit peu d'analyse politique pour ce qui est de la seule question palestinienne, mais on a d'un côté Retailleau qui est dans cet agenda politicien, qui veut être le chef d'une droite extrême alliée à l'extrême droite, qui va peut-être aller au combat dans les prochaines élections présidentielles. Et de l'autre côté, on a le président actuel, Macron, qui espère se poser en faiseur de paix, en chef de file d'une Europe qui serait peut-être l'alternative à un axe Netanyahou-Trump, qui se pose en nuance en réalité dans le débat entre forces impérialistes sur la meilleure façon de gérer le Proche-Orient et de préserver les intérêts coloniaux et impérialistes dans la région. Et donc l'agenda de Macron est très différent de celui du ministère de l'Intérieur. Alors, il est évident que Macron aujourd'hui a une légitimité qui est faible et un pouvoir qui est finalement assez limité sur les méandres et la mécanique du gouvernement et des institutions. Néanmoins, on peut espérer jouer sur chacun des petits espaces, chacun des petits interstices qu'il y a, et on est comme l'eau, on va passer partout où il y a des espaces pour faire avancer notre lutte. Et je le dis de façon très tranquille, nous on a dit effectivement, si Urgence Palestine est dissoute, on perd un outil. On perd à l'heure du génocide, à l'heure d'une mobilisation indispensable, on perd potentiellement une voix et une organisation absolument indispensable. Mais on va tout de suite se faire un référé liberté, et en tout cas prendre des recours juridiques qui nous permettent très vite de continuer en fait à contester cette décision. Et aujourd'hui, pour nous, c'est clair en fait. On aimerait, avec nos manifestations, avoir un impact direct sur un cessez-le-feu à Gaza et la fin du siège. Mais en réalité, ce qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est de lutter contre la complicité du gouvernement français dans le génocide contre notre peuple. Et cette complicité, elle a deux visages. Le premier, c'est bien sûr l'impunité offerte aux soldats franco-israéliens et à toutes ces officines sionistes qui financent et arment la guerre génocidaire contre notre peuple. Mais le deuxième aspect de cette complicité, c'est la répression qui vise nos mouvements. C'est la répression qui vise à étouffer, étrangler les voix des Palestiniens et Palestiniennes. Donc je pense qu'il est aujourd'hui évident que notre lutte, en fait, elle doit s'axer sur des victoires concrètes. Éviter qu'on nous prenne de l'espace politique et conquérir au contraire des espaces de souveraineté. Et c'est ça, Urgence Palestine, et c'est ça, la bataille contre la dissolution d'Urgence Palestine. Là, je parle vraiment de cet enjeu spécifique par rapport à la séquence en cours en Palestine et ici. Les gens nous disent on va perdre du temps et de l'énergie à se mobiliser contre la dissolution. Moi, je le dis non, mes camarades, frères et sœurs, en réalité, on n'est pas en train de perdre du temps, on est en train de conquérir de l'espace politique, on est en train de faire en sorte, en tout cas, de défendre un espace politique dont on a besoin. Encore une fois, je le dis, Palestiniens, Palestiniennes, on est la seule organisation autonome aujourd'hui. On a certes des alliances avec beaucoup de force, mais on est une organisation qui, dans l'histoire de l'immigration postcoloniale ici en France, est assez singulière.
Que faire aujourd'hui ? Que faire aujourd'hui pour peser sur ce qui se passe à Gaza ? Alors, je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas juste Gaza, qu'en Cisjordanie aussi, il y a des déplacements, un nettoyage ethnique en cours, qu'il y a des invasions militaires, etc. Donc, c'est important aussi de rappeler ce qui se passe en Cisjordanie. Mais que faire aujourd'hui pour peser
sur... Et je me permets, excuse-moi Sarah, oui. Mais du coup, enfin, bien sûr, Palestiniens, Palestiniennes, mais aussi Syrie, Liban. Aujourd'hui, c'est une guerre régionale. Contre l'ensemble Yémen. Des peuples de la région, au Yémen qui résiste
voilà,
malgré
donc,
tout.
Voilà, donc le Yémen et la Syrie, effectivement, et le Liban, qui sont toujours bombardés, en fait, par l'armée israélienne, et occupés, effectivement, pour le Liban et la Syrie, physiquement occupés par l'armée israélienne. Donc, que faire aujourd'hui ? Comment peser ? Quels orgas ? Quelle mobilisation ?
Évidemment, de s'engager au mieux possible, par tous les moyens nécessaires. Nous aussi, on dit cette phrase de Malcolm X, c'est pas, on l'entend pas par soi-disant violence, etc. C'est l'idée de dire, il faut aller partout. On en est la démonstration. On a dit de la rue jusqu'à l'Assemblée nationale. Bon, peut-être c'est un futur projet pour Urgence Palestine. D'abord, on se bat contre la dissolution, je sais pas. Non, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée-là de dire, on utilise tous les outils à notre disposition pour, si possible, faire reculer tout ce qui est en train de se passer, ce même agenda, encore une fois, autoritaire et raciste, qui s'inscrit totalement dans ce qui est en train de se passer en Palestine. On a toujours dit, parce qu'on nous dit, vous ramenez le conflit palestinien en Europe. Non, on ne ramène pas le conflit. Il est là. Il est là, il est partout, il est présent. Et pour l'Occident, encore une fois, et notamment pour notre propre État, il y a un enjeu sur la question israélienne, à poursuivre cet agenda, encore une fois, autoritaire et raciste. Donc nous, on a un enjeu à se mobiliser à tous les étages, encore une fois. Nous, on a cette spécificité de lutter contre l'extrême droite organisée, qui est la plus idéologiquement poussée dans justement cet agenda raciste. Mais comme tu l'as dit, cet agenda raciste autoritaire, il déborde seulement des cadres de l'extrême droite. Évidemment, il atteint jusqu'au plus haut sommet de l'État aujourd'hui avec des Bruno Retailleau, mais pas que. Il pollue aussi une partie de la gauche, on peut le dire. On le dit souvent. Et nous, notre travail, ça doit être de taper à tous les étages, avec ses spécificités, nous, de la Jeune Garde, encore une fois, de s'attarder spécifiquement sur les outils organisationnels de l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, si on en est là, on pense que c'est aussi parce que cette extrême droite est montée comme jamais, aussi d'un point de vue politique, organisationnel, etc. Bref, donc à tous les paliers. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que on va se battre contre ces dissolutions parce que d'une part, c'est des outils importants, et la Jeune Garde et l'Urgence Palestine, je le pense sincèrement, c'est des outils importants dans la période, qu'aussi, si jamais on était dissous, ça permettrait de faire jurisprudence quand même pour les gouvernements qui vont suivre. Malgré tout, si jamais il devait y avoir dissolution, on va continuer à se battre, tu l'as dit, sous forme de métaphore, on serait comme de l'eau à s'infiltrer partout pour continuer le combat, et ça sera effectivement le cas.
Moi, il y a vraiment des enjeux très concrets sur lesquels j'appelle à la vigilance et à la responsabilité. Le premier, c'est déjà de se libérer de cette offensive, en réalité, terrorise. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une visée par ce pouvoir à terroriser, à sidérer notre camp social, notre espace politique, les nôtres. Et je vois, moi, du coup, l'état moral de beaucoup de gens qui se disent « mais c'est trop grand, c'est trop énorme, on n'y arrivera pas ». Il y a quelque chose là. Et cette force, on doit la tirer de là où se passe la résistance. À Gaza, au Yémen et ailleurs, malgré le prix terrible, les gens continuent de se battre et d'affronter au péril de leur vie la violence fasciste et génocidaire. Ce qu'on risque, nous, c'est beaucoup moins que les risques pris par ceux qui mettent leur corps entre le fascisme et la protection de la terre et de notre droit. Donc ça, c'est la première chose. Elle est ici, mais c'est un travail important. La deuxième chose, elle est essentielle aussi, ça, c'est des toutes petites choses, mais on passe beaucoup de temps sur les écrans, beaucoup de temps seul à absorber, du coup, toute cette violence, faire collectif, faire front, construire des espaces où on n'est pas seul, c'est absolument indispensable. Sur l'étape juste après pour nous, on est dans une belle coalition qui continue de grandir, et donc, urgence Palestine ou pas, la bannière qui est en train de se développer, c'est celle d'un collectif qui s'appelle Guerre à la guerre. Et Guerre à la guerre, Urgence Palestine, on l'a rejoint parce qu'on est bien sûr très directement concerné par le caractère mortifère, meurtrier de cette industrie de l'armement. La France est un des principaux exportateurs d'armes à travers le monde. Aujourd'hui, on le voit en fait, ils sont en train de casser le service public, ils veulent privatiser les universités et interdire à nos sœurs qui portent le voile d'aller à l'université, mais en même temps, ils prennent des milliards dans nos poches pour armer l'Europe, pour armer la France, pour financer en fait une industrie de l'armement qui, dont les patrons par ailleurs, souvent milliardaires, possèdent des médias, etc. Donc on voit bien que c'est quelque part une clé de voûte du système actuel. Et ça, Guerre à la guerre, c'est un collectif où il y a des écologistes, des féministes, des camarades sans papiers, des travailleurs immigrés, des associations de quartier, des associations de différentes immigrations postcoloniales, les Vietnamiens du collectif Vietnam Dioxine, etc. Donc c'est une belle coalition et on a un rendez-vous. Les 20, 21 et 22 juin, le Salon du Bourget, qui est la plus grande foire mondiale de l'armement et de l'aéronautique en particulier. L'endroit où Lockheed Martin, qui fabrique les missiles qui pleuvent sur la tête de nos enfants à Gaza. L'endroit où Dassault et Rafale viennent signer des contrats avec les pires dictatures qui emprisonnent nos peuples. C'est en fait un moment mondial extrêmement important pour cette industrie et c'est un rendez-vous donc pour nos peuples. Pour nous, si on veut défaire l'étreinte et l'étau qui nous étouffent, c'est un rendez-vous absolument essentiel. Donc j'invite aussi à suivre Guerre à la guerre sur les réseaux et à se mobiliser, à avoir bien en tête ce rendez-vous. On va avoir un grand village alternatif. On doit réinstaurer l'hégémonie en fait, de nos slogans pacifistes, anti-impérialistes, contre la guerre qui est faite à nos peuples. La mobilisation, elle est absolument urgente et essentielle. Parce que moi, je ne me bats pas pour qu'on soit reconnus comme des victimes. Nous sommes certes palestiniens et arabes et musulmans et peuples du Sud globalement victimes de l'oppression coloniale et de l'impérialisme. Ça, c'est la première des violences, celle qui fait qu'effectivement, on pourrait revendiquer ce statut-là. Mais moi, je revendique d'abord et surtout, effectivement, que nous sommes des peuples résistants et que nous sommes des peuples combattants. Et c'est cette figure de la résistance qui est combattue et que parfois on escamote dans cette compétition à qui est la victime seule et exclusive des violences qui peuvent traverser la région. Et on ne peut que saluer ça, quels que soient les désaccords ou les différences qu'il peut y avoir avec telle organisation ou avec telle faction. La réalité, nous, c'est qu'on soutient le principe de la résistance, qu'on soutient la réalité de la résistance. On n'est pas dans une logique d'affiliation à telle organisation ou à tel régime.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.